Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal plein de Shindani Kambala.
Reprise des combats tôt ce lundi entre les FARDC et les M23 au Nord Kivu. Les deux belligérants se rejettent mutuellement l'initiative de cette nouvelle attaque. Le porte-parole de Sokola 2 parle d'une réaction positive de l'armée sur le terrain. Sud Kivu, la circulation sur la route nationale numéro 5 reste toujours coupée entre Bukavu et Kamanyola. Bientôt une semaine depuis que le pont Chianda de Nyangezi s'était effondré dans le territoire de Walungu. La situation devient de plus en plus intenable à Nyangezi. Au Maniema, pour chercher à accroître la représentativité des femmes au poste des prises de décision, ces femmes ont élaboré un plan stratégique de l'inclusion de la femme dont sa vulgarisation a eu lieu le week-end par la division du genre famille et enfants. Nous en parlons dans ce journal avec Régine Kapunga Sifayao, chef de la division du genre famille et enfants. Voilà tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé. Au Nord Kivu, reprise des combats tôt ce lundi entre les FARDC et les M23 dans la région de Runyoni et Shanzu dans le groupement de Jomba en territoire de Rutshuru. Les deux belligérants se rejettent mutuellement l'initiative de cette nouvelle attaque. Le porte-parole de Sokola 2 parle d'une réaction positive de l'armée sur le terrain. Pour l'instant, l'armée dit pilonner les collines stratégiques de Runyoni et Shanzu occupées par les M23. La reprise des hostilités intervient après une semaine environ d'accalmie. Des explications avec vous, Denise Loukesso.
Selon les porte-paroles des FARDC, les FARDC ont répondu à une attaque de l'ennemi qui a lancé les hostilités vers 5h du matin sur les positions de l'armée à Mohati. Cette colline se trouve sous les pieds de la colline stratégique de Runyoni. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko indique que l'armée maintient toujours ses positions de Mohati tout en concentrant ses efforts vers Runyoni et Chanzu. L'objectif est d'y déloger les rebelles, affirment les porte-paroles.
Nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. L'ennemi a encore une fois de plus tenter d'attaquer une de nos positions à Mouati. Nous venons de conquérir Mouati. Les M23 sont réfracteurs du processus PDDRC, mais aussi ils ne cessent d'attaquer nos positions. Mais du moins, les opérations évoluent très bien sur le terrain. Nous continuons les offensives parce que c'est l'ennemi qui nous a attaqués encore une fois de plus.
Le M23 accuse en revanche l'armée de lancer les offensives contre leur position depuis 2 heures. C'est dans l'intention de compromettre les dialogues de Nairobi, dit Bertrand Bissimwa, président du M23, dans son compte Twitter. Signalons que cette zone où se déroulent ces nouveaux affrontements est quasi déserte. La population reste dans leur milieu de refuge. Goma, Denis Loukesso, Radio Kapi.
À propos de ces combats, le président de la République s'est dit très affecté par la situation sécuritaire alarmante qui prévaut à l'est du pays, aggravée par les affrontements entre les FARDC et les M23. Pour Félix Tshisekedi, sa volonté de construire des ponts plutôt que des murs et le fait qu'il ait toujours privilégié la paix, la fraternité et la solidarité entre peuples de la région ne peuvent pas être considérés comme une faiblesse. D'après lui, il n'y a l'ombre d'aucun doute que le Rwanda a appuyé les M23 dans l'agression contre la RDC. Le chef de l'État l'a dit hier dimanche au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec son homologue Denis Sassou Nguesso. C'était à Oyo, dans le département de la Cuvette, en République du Congo. Le président de la République est allé solliciter l'implication de son homologue du Congo-Brazzaville pour qu'une solution soit trouvée à cette crise. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Élisée Chikota Chivueta.
J'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça, ça a toujours été mon définitif. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu 2023 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part.
Tout en saluant la visite de son homologue de la RDC, le président du Congo-Brazzaville a rappelé que cette question était au centre des discussions récemment à Malabo, en Guinée équatoriale, lors du sommet de l'Union africaine. Pour Denis Sassou Nguesso, tout doit être mis en œuvre pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. On l'écoute.
Salut la visite ici à Oyo, mon frère le président Tshisekedi Chilombo. Je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici, nous avons évoqué ces questions à Malabo en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le président de l'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté ces questions, l'action entre la RDC et le Rwanda avec le président João Lourenço, qui est présent en exercice de la CIRGEL, et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix.
Revenons au Nord Kivu pour parler de l'ouverture prévue ce lundi à Goma de la réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Hormis les Rwanda et les Sud-Soudan, tous les autres responsables des armées de l'Est African Committee vont prendre part à cette rencontre de haute portée stratégique selon les sources du gouvernorat du Nord Kivu. Quels sont justement les contours de ces rendez-vous? Le point avec vous, Gabriel Wamenia.
Les décors pour l'ouverture de la réunion des chefs d'état-major généraux des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est est déjà planté à l'hôtel Serena de Goma. Sur place, on peut noter la présence des délégations du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la RDC, pays hôtes. La délégation du Rwanda est absente jusque-là depuis le début de cette rencontre qui s'est ouverte par des travaux préparatoires des experts militaires depuis ce week-end et qui se sont clôturés la nuit d'hier dimanche. Le Soudan du Sud non plus n'est pas représenté à ces colloques pour des raisons logistiques de transport selon les sources dignes de foi à l'hôtel Serena. Selon les mêmes sources, les responsables des armées des pays de l'EAC devraient mettre en place et constituer une force commune régionale pour contenir, sinon combattre toutes les forces négatives, tenir tous les groupes armés qui déstabilisent l'est de la RDC. Notons que l'absence du Rwanda à cette rencontre stratégique est interprétée diversement par plusieurs acteurs sociopolitiques de la province, en dépit des efforts diplomatiques entrepris par les autorités congolaises pour baisser la tension entre ces deux pays voisins. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
En Ituri, les rebelles des ADF ont tué 20 personnes, dont 8 femmes, et incendié une trentaine de maisons hier dimanche au village Haute-Mabère sur la route nationale numéro 4 dans la partie sud du territoire d'Irumu. Selon des sources locales, ce bilan est encore provisoire car les fouilles se poursuivent pour identifier d'autres victimes de cette attaque. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme plaide pour le lancement de la deuxième phase des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF pour éradiquer ce groupe armé. Le point avec Ezekiel Mozalia.
Dimanche, un groupe de rebelles des ADF venus de Madina et Boutani à 12 km à l'ouest de la route nationale numéro 4 a pris d'assaut le centre d'Haute-Mabère en tirant des coups de feu. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme et d'autres sources locales avance un bilan de 20 personnes tuées. Certaines victimes, dont 8 femmes et des enfants, sont mortes calcinées dans des maisons qui ont été incendiées par ces rebelles. Un bilan qui ne confirme pas encore des sources de l'administration du territoire qui indiquent plutôt que la fouille continue après la découverte des 5 corps. Pris de panique, certains habitants ont trouvé refuge notamment dans les villages voisins de Mandima. D'autres, composés majoritairement des retournés, ont pris la direction de Beni au Nord Kivu. La société civile locale ainsi que des notables du milieu plaident pour le lancement des opérations conjointes pour déloger ces rebelles de ces localités. Nous n'avons pas encore la réaction de l'administrateur du territoire ou de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ces temps, dans les territoires de Beni, 3 000 milicien Maïmaï neutralisé, un autre capturé et un militaire FARDC blessé. Tel est le bilan enregistré lors d'une attaque des Maïmaï ce lundi contre une position militaire des Visiki Mutendero. C'est un groupement Isale Vulambo dans la chefferie de Bachou. Le porte-parole des opérations Sokola 1 qui livre la nouvelle attribue cette nouvelle attaque au groupe Mai Mai Mazembe. Le capitaine Anthony Mwalushai affirme que la situation s'est vite rétablie dans cette partie du territoire de Beni après les affrontements qui ont duré une trentaine de minutes. L'armée a déjà pris le contrôle de cette localité et les activités tournent normalement, ajoute-t-il. Il appelle cependant la population au calme et à collaborer avec les forces de sécurité afin de mettre l'ennemi en déroute. Nous le disions en titre, au sud Kivu, la circulation sur la route nationale numéro 5 reste toujours coupée entre Bukavu et Kamanyola. Bientôt une semaine depuis que le pont Chianda de Nyangezi s'était effondré dans les territoires de Walungu. La situation devient de plus en plus intenable à Nyangezi. Plus de 500 camions en provenance du sud sont bloqués et ne savent pas rejoindre la ville de Bukavu. Le chef de cité de Nyangezi s'est dit débordé dans un endroit où il n'y a ni eau potable, ni installation hygiénique pour contenir les chauffeurs. Mais maître Joe Lolo Machaouri Magala est joint par Emmanuel Elamedji Wakabedi.
La situation est très grave ici à Nyangezi parce que plusieurs camions qui s'équipent ici à Nyangezi par après des kilomètres de camions, plus de 500 camions qui sont se trouvés ici à Nyangezi, ils attendent comment on peut ouvrir la route pour qu'ils passent devant à Bukavu. Mais jusqu'à maintenant, pas moyen d'arriver à Bukavu. Il y a plusieurs camions qui amènent les poissons. Et jusqu'à maintenant, ils commencent à créer une odeur dans notre milieu. Donc ici, on mange avec difficulté. Les restaurants sont trop petits par rapport aux clients. Ici, il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, nous risquons de prendre beaucoup de maladies ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de toilettes. Ici, il n'y a pas d'eau. Jusqu'à maintenant, vraiment, les chauffeurs ont de souffrir et le client souffre. Ici, il y a beaucoup de souffrances ici à Nyangezi. Vraiment, pour moi, comme responsable, chef de centre ici à Nyangezi, vraiment, je suis en train de pleurer parce que il y a plusieurs personnes qui ont de souffrir ici. Il y a plusieurs camions qui sont installés ici. Il y a plusieurs personnes qui passent. Ils manquent là où ils peuvent même aller manger ici à Nyangezi. Vraiment, je suis en train de pleurer.
Dans la province de la Tchopo, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé ce lundi à Kisangani le troisième niveau de formation en cascade. Il s'agit de la formation de futurs préposés de la collecte de données relatives à l'élaboration de la cartographie opérationnelle. Au terme des 5 jours de formation, les 13 préposés, dont 6 femmes, seront déployés sur toute l'étendue de la ville de Kisangani. Le point avec vous, Jacques Moukonkole.
En lançant officiellement cette formation au bureau du secrétariat provincial de la CENI, Didier Manara, deuxième vice-président de cette institution, a exhorté tous les participants à l'assiduité afin d'assimiler les matières qui leur seront dispensées. Car, a-t-il indiqué, les données qu'ils récolteront vont permettre de dénicher les centres d'inscription où seront localisés les bureaux de vote. Outre la récolte des données opérationnelles, cette formation vise également l'amélioration de l'accessibilité des votants aux centres d'inscription et aux centres de vote.
Ce que nous avons constaté depuis le début du lancement des élections au pays, c'est-à-dire à partir de 2006, que le taux de participation des électeurs n'est fait que chuter. Nous avons quitté 65%, 45% et lors des élections passées, nous sommes passés à 39% des taux de participation. Cela peut être dû, par exemple, à l'accessibilité qui posait problème. Alors, la centrale électorale a voulu que cette opération se passe d'une manière régulière et correcte. Voilà pourquoi nous disons que ici à Kisangani, nous nous attendons à ce que le travail soit bien fait.
Par ailleurs, au sujet de l'organisation des élections générales l'année prochaine, Didier Manara se veut optimiste quant au respect du délai constitutionnel. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Maniema, les habitants de la commune rurale de Kalima, précisément ceux de l'avenue Katutia, se disent profondément préoccupés par la dégradation de l'aire d'abattage devenue insupportable, favorisant ainsi plusieurs maladies. Selon ces derniers, l'abattoir de Kalima manque un système de canalisation et équipement pouvant permettre de bien égorger les animaux dans de bonnes conditions. Ils sollicitent des solutions rapides auprès des autorités tant provinciales que nationales. On écoute Kandolo Mutuza, habitant de Kalima, qui témoigne au micro de Florence Kizalunga.
Je suis préoccupé par la dégradation de l'aire d'abattage de notre milieu qui devient insupportable et commence à favoriser des maladies comme la diarrhée à cause de sa salubrité. Actuellement où je vous parle, les animaux sont abattus par terre. Les sangs et autres déchets internes stagnent de part et d'autre au bord de la route et même sur les habitations. Voici le constat de l'état de l'abattoir. Manque de système de canalisation au niveau de l'abattoir qui est complètement détruit, ce qui favorise des odeurs nauséabondes. Pas d'entrée au niveau de port d'abattoir suite à l'érosion qui a emporté une partie des terres. Manque d'équipement permettant d'égorger et couper les différentes parties de l'animal. Destruction de certaines portes et clôtures de l'abattoir où les autres restent en état d'alarme avec des fissures. Nous lançons un cri d'alarme auprès des autorités provinciales et nationales afin de trouver aussi rapide que possible des solutions concrètes et adéquates pour cette situation. Nous remercions la radio onisienne pour la végalisation des difficultés de la population.
Actualité internationale.
Au Kenya, l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga a reçu l'aval de la Commission indépendante des élections et des délimitations pour se présenter à la prochaine élection présidentielle. Avec l'ancienne ministre de la Justice, Martha Karua, comme colistière, Raila Odinga est considéré comme l'un des favoris de cette élection. En cas de victoire, Martha Karua, avocate et ancienne ministre de la Justice, deviendrait la première femme vice-présidente du Kenya. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu hier dimanche auprès de ses troupes sur la ligne de front dans les Donbass, dans l'est du pays où la guerre fait rage face aux forces russes, a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Dans la province du Maniema, les femmes sont faiblement représentées dans les instances décisionnelles. Sur les 100%, il n'y a que 6% des femmes. Résultat de l'enquête menée par les femmes leaders de cette province en 2021. Pour chercher à accroître la représentativité des femmes au poste et de prise de décision, ces femmes ont élaboré un plan stratégique de l'inclusion de la femme dont sa vulgarisation a eu lieu le week-end par la vision du genre famille. Et enfants. Pour en parler, nous recevons Régine Kapunga Sifayao, chef de la division du genre famille et enfants. Elle répond aux questions de Florence Kizalunga.
Madame Régine Kapunga Sifayao, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Quel est l'état de lieu de la présence de la femme du Maniema dans les instances décisionnelles?
Merci pour cette question très intéressante. La femme du Maniema est faiblement représentée dans les instances de la province. Les enquêtes réalisées par la division avec l'appui de la GIZ nous ont démontré que sur les 100% des postes de décision au Maniema, la femme n'occupe que 6%. À titre d'exemple, nous avons sur 22 députés, nous avons seulement 2 femmes. Sur 10 ministres, une seule femme. Sur 2 maires de la ville, il n'y a aucune femme. Le bourgmestre, même sur 6, il n'y a qu'une seule. Sur 56 chefs de division de l'administration publique, il n'y a que 2 divisions qui sont chapeautées par les femmes. Sur 18 zones de santé, une seule femme comme médecin chef de zone. Et sur 18 médecins directeurs dans les hôpitaux généraux, il y a 0 femme. Si nous passons également à l'enseignement, nous voyons que c'est la même chose. Sur 4 directeurs provinciaux, il y a 0 femme. Et sur 40 sous-préfets, 0 femme également. Si nous regardons du côté des universités, sur 44 recteurs, il n'y a qu'une seule femme. Et sur 132 membres du comité, il n'y a que 4 femmes. Donc, vous remarquez, madame, que réellement, la femme est sous-représentée et faiblement représentée dans la province du Maniema à ce qui concerne les postes de prise de décision.
Qu'est-ce qui manque aux femmes?
Nous toutes nous posons cette question. Qu'est-ce qui manque? La femme, les capacités des femmes ne sont plus à démontrer. Les femmes sont capables. Les femmes ont un niveau des études. Et les femmes au Maniema vraiment se défendent très bien dans tous les domaines et partout. Mais quand il y a des nominations, en tout cas, on préfère mettre la femme à la dernière position et on recrute selon la volonté des hommes. Donc moi je peux dire que c'est la volonté politique qui manque.
Et vous venez de vulgariser les plans stratégiques provinciaux genre. En quoi consiste-t-il?
Oui, cette stratégie est un document très capital. Il consiste à chercher comment accroître la représentativité des femmes au poste de prise de décision dans les instances décisionnelles, que ce soit dans la politique, dans l'administration et pourquoi pas dans la communauté. Elle consiste également à éveiller la conscience des décideurs à tous les niveaux sur le respect et la mise en application des textes juridiques qui promeuvent la femme. Mais également, on doit savoir réveiller la conscience de la communauté sur l'utilité du genre et lutter contre les inégalités faites à la femme.
Pensez-vous que les stratégies couchées dans ces documents, une fois respectées, permettront à la femme du Maniement d'occuper des postes de prise de décision à tous les niveaux?
Madame la journaliste, je pense que cette stratégie nous manquait. Mais comme la stratégie est là, nous sommes conscientes que cet outil va beaucoup contribuer pour le relèvement de la femme du Maniema. Sa mise en œuvre et la mise en œuvre du plan opérationnel que nous avons élaboré permettra à chaque acteur de pouvoir s'investir, de pouvoir s'approprier et de pouvoir travailler conformément à cette stratégie. Et nous sommes rassurés que vraiment, en mettant en œuvre cette stratégie, la femme du Maniema peut souffler et peut arriver quand même à se retrouver dans le poste de prise de décision.
Dans votre rencontre, vous avez présenté un plaidoyer. Peut-on savoir le contenu et à qui est-ce que vous vous êtes adressé?
Oui, en tout cas, ce plaidoyer était adressé d'abord aux autorités nationales et provinciales. À ces autorités, nous leur avons demandé de pouvoir s'approprier, de pouvoir s'impliquer et de pouvoir vraiment financer, mettre à la disposition des femmes du Maniema des moyens pour que cette stratégie soit effectivement mise en œuvre. Mais au niveau des partenaires, nous avons demandé à ce que les partenaires puissent venir la femme du Maniema en aide et nous avons également insisté pour que chaque partenaire qui arrivera puisse se greffer à cette stratégie-là. Nous sommes rassurés que les partenaires qui ont les genres dans leur programme viendront vers la division du genre, vers le commissariat du genre pour pouvoir voir la matière, comment elles peuvent appuyer la femme du Maniema et pourquoi pas la femme de l'intérieur qui aussi est en train de souffrir.
Madame Kabonga Sifayao, merci.
Et c'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à la grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Pelé Kupela Mondo, à qui nous souhaitons bon retour, et mise en onde par Polydor Basunga. Merci d'avoir été de notre.